Le grand témoin, Louis Dauphresne.
Bonne matinée, bon réveil en ce mercredi 26 janvier. Nous accueillons ce matin le vice-amiral Xavier Magne, sous-chef d'état-major opération de la Marine nationale, ancien commandant de l'opération baliste au Liban. C'était en 2006, le Liban qui est au cœur d'une actualité d'ailleurs en ce moment. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec vous, amiral. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct et d'avoir accepté de venir pendant une quarantaine de minutes pour nous parler notamment. Alors on va peut-être commencer par cela puisque vous participez demain à un colloque à l'UNESCO qui a une ampleur internationale certaine, à laquelle d'ailleurs devait participer, me semble-t-il, mais je crois qu'il a annulé sa participation au dernier moment, c'était le cardinal Torrent, je crois, semble-t-il n'y sera pas, mais je crois qu'il sera remplacé. C'est dire que les institutions se tutoient, aussi bien l'Église que la Marine, que les institutions aussi humanitaires. C'est un colloque qui est consacré à la diplomatie humanitaire et la gestion des crises internationales. Alors vous y participerez et évidemment cela renvoie à beaucoup de sujets qui se trouvent dans l'actualité, en particulier peut-être la Côte d'Ivoire dont vous nous parlerez aussi. Mais j'avais d'abord une question sur ces aspects internationaux puisqu'on va aussi aborder le rôle de la Marine et l'importance de la Marine pour la France. C'est de savoir quel est le lien entre l'Ordre de Malte, qui est une institution fondée il y a 900 ans, l'une des plus anciennes associations caritatives, et la Marine nationale. Amiral.
Eh bien, en fait, très tôt, la marine a utilisé l'ordre de Malte pour former ses officiers de marine. Et c'est bien pour ça, en fait, qu'il y a cette tradition qui s'est tissée au fil des ans entre l'ordre de Malte et la marine nationale, à tel point qu'aujourd'hui, les commandants d'un certain nombre de bateaux, des bateaux qui portent le nom de chevaliers de l'ordre de Malte de l'époque, Tourville par exemple, chaque commandant quitte son commandement en ayant été fait chevalier de l'ordre de Malte. Donc il y a cette espèce de tradition qui se perpétue. Et aujourd'hui, dans le haut commandement de la marine, un certain nombre d'officiers sont dans cet ordre. Petit à petit, en fait, le lien perdure, continue à se tisser. Et ce qui fait qu'en fait, lors de l'opération baliste, j'avais un lien un petit peu particulier avec l'ordre de Malte et je transportais du fret humanitaire pour le compte de l'ordre de Malte.
Et au fil de vos opérations, vous-même et de vos commandements, vous aviez un lien étroit ou un lien, je dirais, continu avec l'ordre de Malte?
Non, pas nécessairement continu, parce qu'en fait, l'ordre de Malte est devenu maintenant plus quelque chose qui s'apparente à une ONG. Et donc, en fait, le lien est un relève de la tradition, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des valeurs partagées. C'est ça qu'on cherche à traduire à travers l'admission à l'intérieur de cet ordre d'un certain nombre d'officiers de marine. Mais
quelles sont ces valeurs partagées, amiral?
Je crois qu'en fait, ce sont des valeurs qui ramènent à la mer. La mer est un espace très particulier. C'est un petit peu comme le désert, c'est-à-dire qu'en fait, la mer est immense. C'est quelque chose dans lequel l'homme ne vit pas naturellement. La vie est menacée en permanence, comme dans un désert. Et les éléments changent énormément. Une versatilité des éléments, vous avez une puissance absolument extraordinaire qui se dégage de la mer, ce qui fait que lorsque vous êtes dans une tempête, par exemple, votre vie est menacée, quel que soit le type de bateau sur lequel vous vous trouvez. Et donc, je crois que ça change complètement la mentalité des gens de mer par rapport aux gens qui sont à terre. Lorsque vous avez un orage à terre, vous rentrez dans votre grotte, vous vous cachez, vous attendez que l'orage passe. En mer, vous subissez l'orage de plein fouet, en risquant votre vie, et donc, tout naturellement, vous allez vous tourner vers les autres, et vous allez penser à sauver éventuellement d'autres vies si quelqu'un est en difficulté. Donc, il y a ce qu'on appelle la solidarité des gens de mer, et je crois que ça n'est pas un vain mot. Et on retrouve là, en fait, cette espèce de valeur qu'il y a au sein de l'ordre de Malte, qui passe sa vie à essayer de soulager les gens qui sont en difficulté, les gens les plus pauvres, les plus faibles. Et donc, je crois que c'est là où on se retrouve complètement.
Vous qui avez 3 étoiles, donc vous avez un poste important dans la marine, on pourrait vous situer, il y a l'amiral Forissier, puis il y a le major général de la marine, puis 4 sous-chefs d'état-major, donc vous êtes dans le commandement, le haut commandement de la marine. Quelle est votre histoire vous-même avec la mer? Est-ce qu'il y a un lien personnel? J'imagine que oui.
En fait, pas tout à fait lien personnel au départ, parce qu'en fait, mon père faisait partie de l'armée de terre, et donc il n'y avait pas de vraie tradition de marin dans ma famille. En revanche, assez tôt, je suis rentré dans le scoutisme, et scoutisme marin. Donc j'ai eu une première rencontre avec la mer à Lorient et à Brest, et rencontre avec la marine nationale à cette époque-là. Et c'est vrai que ça a été un choc. D'ailleurs, nous sommes 3 frères à être rentrés dans la marine. Et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on avait vécu un petit peu ces expériences tout à fait extraordinaires sur l'eau, je savais que tous les enfants adorent l'eau, bien sûr, mais une fois qu'on a commencé à se faire un petit peu peur sur l'eau, à ce moment-là, il y a un lien complètement différent. On a envie de voir autre chose, on a envie d'essayer de maîtriser un petit peu ce milieu, qui est un milieu pas facile, et je crois que c'est un défi permanent.
Alors la question n'est pas innocente, hein. On reviendra, si vous le voulez bien, à des crises humanitaires, des choses d'ordre international, mais la question n'est pas innocente parce que la marine se pose aujourd'hui la question de son lien avec la nation et comment attirer à elle des personnes qui jusqu'ici venaient relativement facilement, sachant que vous l'avez dit, la vie à bord est très particulière et l'est encore plus aujourd'hui en décalage avec le mode de vie de nos contemporains. Pas de portable, pas de liaison facile avec les amis, tout cela, ça demande à être animé par une vraie vocation maintenant.
C'est un métier qui est difficile, mais je crois qu'en fait c'était une des raisons qui attirait un certain nombre de gens. Je crois que quand on fait le bilan des raisons qui attirent les jeunes dans la marine, d'abord le premier c'est voir des horizons nouveaux. Les gens ont envie de voyager, ils ont envie de bouger, ils n'ont pas envie de rester dans les 30 kilomètres de l'endroit où ils sont nés. Ils ont besoin de voir des paysages nouveaux, ils ont besoin de voir des cultures nouvelles, et donc Le phénomène escale est très important dans la marine. C'est extrêmement important, c'est une façon de représenter son pays, d'aller porter ses valeurs ailleurs. Et si vous regardez maintenant dans les jeunes, vous verrez que beaucoup de jeunes, avant d'avoir une expérience professionnelle, vont avoir une expérience humanitaire. Ce qui veut dire que, quelque part, ils ont besoin d'aller aider les autres, ils ont besoin de partager un petit peu la chance qu'ils ont eue en étant élevés dans un pays qui était un pays riche, qui est un pays qui est heureux, qui est un pays, même si de temps en temps on subit des grèves ou des choses comme ça, il n'empêche que globalement, on fait partie des pays les plus heureux de la planète. Donc les jeunes ont besoin de partager ce genre de choses, et je crois qu'on retrouve ça dans les gens qui sont marins. Alors, le drame de la marine, c'est que...
Elle ne se voit pas.
Voilà. Et en fait, beaucoup de gens, un officier de marine australien disait avec beaucoup d'humour que les Australiens considèrent que l'Australie est un immense continent entouré de plages. C'est-à-dire qu'en fait, pour beaucoup de gens, la mer, c'est la plage. Ça va jusqu'à le niveau de la ceinture. Et après, ben, c'est l'inconnu, donc on ne sait pas du tout ce que c'est. Et donc, beaucoup de gens ne savent pas très bien ce que l'on fait en mer. Ils ont l'impression qu'une fois que le bateau est parti, il s'ennuie. Alors qu'en fait, les bateaux ont une activité extrêmement dense. Tellement dense qu'il faut arriver à lever le pied de temps en temps. Il faut s'arrêter dans un pays étranger pour que les gens soufflent. Parce que... Ils sont 24 heures sur 24, les uns sur les autres, en permanence, avec...
C'est une vie de communauté, un peu comme un monastère. Hein.
Plus que dans un monastère, parce qu'un monastère...
Plus que dans un monastère.
Vous avez un rythme qui est un rythme naturel, le rythme de la journée, alors que le bateau ne s'arrête jamais. Il y a des gens qui font le quart au milieu de la nuit, donc vous avez 8 heures à minuit, minuit à 4, 4 à 8, et donc vous avez tous les jours, vous devez vous lever au milieu de la nuit pour pouvoir aller prendre un quart. C'est assez, assez fatigant.
Bon, mais c'est une vocation quand même. Hein. C'est aussi ce qu'il faut peut-être dire, et vous l'avez dit, la nécessité de voir, découvrir d'autres horizons, à l'heure aussi où la planète est un petit peu un village amiral. J'avais une question aussi, peut-être peut-on le dire maintenant, c'est que la France, si on regarde une carte, est en fait d'une taille comparable, d'une superficie comparable à celle de la Chine. Mais on ne le sait pas.
Oui, alors c'est vrai qu'en fait...
Et c'est même mieux que la Chine, parce qu'il y a des choses en dessous.
Si vous regardez l'ensemble du globe, la France, c'est pas seulement le territoire métropolitain, c'est aussi 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives dans lesquelles nous avons une priorité sur l'exploitation de la colonne d'eau, c'est-à-dire en fait tout ce qui se trouve à l'intérieur, comprendre les poissons, mais nous avons également possibilité d'exploiter le fond marin. Ça veut dire, par exemple, des nodules polymétalliques à un moment où on commence à se poser la question des métaux rares et des choses comme ça. Et puis, vous avez aussi ce qui est en dessous, c'est-à-dire, en fait, dans le sous-sol sous-marin, vous avez des gisements de gaz et de pétrole, en général d'énergie. Et donc, tout ça, c'est à la France. C'est important parce que une énorme partie de cette zone économique exclusive se trouve en Polynésie française. Et si le Pacifique devient une des dernières priorités... Il est possible qu'un jour, la nature ayant horreur du vide, quelqu'un vienne annexer ces zones-là, et ce serait une grande perte.
On mesure à quel point c'est stratégique.
Oui.
Mais les Français ne le savent pas parce qu'ils vivent souvent le dos tourné par rapport à la mer et ils regardent la terre.
Alors, c'est pas que les Français, parce que vous avez l'Union européenne qui n'a toujours pas compris qu'en fait une des frontières de l'Union européenne se trouve dans l'océan Indien.
C'est un message que vous faites passer à l'Union européenne là ce matin.
Oui.
Que l'Union européenne ouvre ses yeux et regarde au-delà des frontières.
Oui.
On le disait d'ailleurs il y a quelques semaines avec le père Emmanuel Lafond, qui est évêque de Cayenne, la plus longue frontière que nous ayons avec un pays limitrophe, c'est avec le Brésil. Les Français ne le savent peut-être pas non plus. Amiral Mann, je vous propose d'écouter, si vous le voulez bien, le zapping. C'est une sélection d'infos vues à la télé, puis on va commenter un certain nombre de points pris dans l'actualité. Au fil de ce colloque que vous allez, auquel vous allez participer, c'est demain à l'UNESCO. Il est consacré à la diplomatie humanitaire. Il est 7h45.
Nicolas Sarkozy revient sur le dossier de la récidive criminelle suite à la disparition de Laetitia Perret.
La récidive criminelle n'est pas une fatalité, mais il n'y aura pas une enquête de plus. On dira aux Français que tout a été parfait, sauf une petite jeune fille qui ne demandait qu'à vivre et qui a disparu. C'est pas possible. Il faudra des décisions et pas des commissions de réflexion.
Luc Châtel propose une prime pour les chefs d'établissement, une proposition accueillie de manière un peu frileuse de la part du syndicat des professeurs.
Nous aurons dorénavant une rémunération variable qui pourra aller jusqu'à 6000 euros sur 3 ans pour des chefs d'établissement qui seront liés à des performances, des résultats factuels, transparents.
La gare de Bobigny transformée en mémorial, la SNCF revient sur ses heures noires, l'époque où elle a collaboré avec les nazis pour déporter les juifs. On écoute Guillaume Pépi, le président de la SNCF.
La SNCF, entreprise d'État, a été contrainte, réquisitionnée, un rouage dans la machine nazie d'extermination. Nous ne l'oublierons pas.
Dimitri Medvedev revient sur l'attentat dans l'aéroport de Moscou. Pour lui, c'est la sécurité de l'aéroport qui est en cause.
Comment cela a-t-il pu se produire ? Parce que ce n'est pas si facile d'introduire une telle quantité d'explosifs dans le terminal. Les gens qui travaillent pour la société de l'aéroport et la direction devront rendre des comptes.
Au Liban, un proche du Hezbollah prend la place de Premier ministre en remplaçant Saad Hariri. La contestation gronde, l'ancien chef d'État appelle au calme.
Je comprends les cris de colère qui sortent de vos cœurs, pleins de douleur et de dignité. Mais il ne faut pas que cette colère aille à l'encontre de nos valeurs et de notre éducation. Seule la foi en notre démocratie nous permettra d'exprimer nos points de vue politiques.
Le bruit de l'actu, le bruit de l'actualité, le bruit des événements, c'est avec Mathieu Guinet chaque matin du mardi au vendredi. Alors, Amiral Mann, peut-être le Liban d'abord quand même, hein, puisque vous avez commandé l'opération baliste, c'était en 2006. Peut-être rappeler ce que vous avez fait là-bas, ce que la France a fait là-bas, puis un jugement, si vous le pouvez, naturellement, puisque vous avez des fonctions institutionnelles importantes, nous dire ce que vous pensez de la situation actuelle et des remous politiques.
Alors, d'abord, ce que nous avons fait là-bas, avant que la force baliste n'arrive sur zone, un ferry avait déjà véhiculé à peu près 6000 ressortissants en direction de Chypre. Et donc, lorsque nous sommes arrivés avec 4 bâtiments, 2 appareils de transport, 3 hélicoptères Caracal de l'armée de l'air et 2 compagnies d'armée de terre. Dans un premier temps, nous avons extrait à peu près 8000 personnes supplémentaires. Nous avons transporté environ 1400 tonnes de fret humanitaire. Et donc il y avait, l'Ordre de Malte, il y avait la Fondation Rafik Hariri, il y avait également le Croissant Émirien. Et puis une fois que cette période d'évacuation était terminée, que la situation se stabilisait un petit peu, à ce moment-là, nous avons mis à terre une compagnie du génie qui a fabriqué, qui a monté 10 ponts provisoires sur 6 sites différents dans tout le Liban, c'est-à-dire en fait du sud jusqu'au nord, très très nord, Arka, de façon à rétablir un petit peu la fluidité du trafic et permettre à un certain nombre de zones qui étaient complètement bloqué et enclavé, de pouvoir se dégager et retrouver en fait ce lien. Alors c'était très important parce que ça s'est fait évidemment en concertation avec les autorités politiques, et donc le choix des sites a été fait avec les Libanais, et ça représentait en fait une espèce de, toutes les communautés étaient touchées par ces ponts, et donc c'était important pour l'unité nationale.
Ça avait une portée politique.
Oui.
L'action de la marine a eu une portée de fait politique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un petit peu délicat. Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire précisément, amiral. Est-ce que vous regardez la situation toujours de très près, puisque le milliardaire sunnite Najib Mikati, qui était chargé de former un gouvernement au Liban, est appuyé par le mouvement chiite Hezbollah, qui sur place a un poids prédominant. Et c'est une nomination qui est dénoncée par son rival Saïd Hariri, pardon, et qui illustre une nouvelle fois les tourments politiques du Liban. Alors, quelle est votre appréciation des choses?
Je dirais que l'appréciation que j'en ai est, d'une certaine façon est positive, parce que lorsque en 2006 le Hezbollah a lancé ses roquettes sur Israël et a déclenché en fait cette guerre,
d'où l'évacuation des civils.
Voilà, le Hezbollah jouait complètement son jeu. Après, le Hezbollah est rentré dans le jeu politique, et je crois que c'était ça la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait le Hezbollah se présentait comme une force politique et rentrait dans le jeu démocratique pour essayer de capter le pouvoir. Alors après, maintenant, la façon dont ils vont essayer de capter le pouvoir, et est-ce qu'ils vont le faire en excluant complètement les autres, ça c'est pas forcément très bien, et ça c'est un problème intérieur au Liban. Mais en attendant, il y a un vrai jeu politique, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en est plus au cavalier seul qui impose et qui prend en otage tout le restant de la population. Je crois que c'était ça la bonne chose, me semble-t-il, au Liban.
Est-ce que vous avez le sentiment, dans les fonctions que vous exercez, que la France, dans cette région du monde, a toujours une place importante, est une pièce maîtresse?
Lorsque l'on écoute nos amis libanais, la France est considérée comme la tendre mère, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de Libanais comptent sur nous pour venir les assister ou les aider quand ils ont des difficultés. Et en fait, cette référence, elle est permanente, donc je crois que c'est important. Nous avons beaucoup de gens qui sont au Liban, beaucoup de gens qui ont un passeport français, qui peuvent avoir en fait deux passeports, mais au moins un passeport français, et qui viennent périodiquement en France. Et si par hasard les remous sont un peu trop importants, il se produira la même chose qu'en 2006, c'est-à-dire qu'il y aura à nouveau évacuation de ressortissants ou quelque chose comme ça. Donc en fait, nous, on surveille très attentivement ce qui se passe là-bas. On se prépare bien évidemment à intervenir si par hasard il faut intervenir, si on nous demande de venir appuyer. Donc ça impose un certain nombre de choses.
Aujourd'hui, vous avez un navire qui est prêt à intervenir?
J'ai un navire en alerte depuis 2006. Nous avons une alerte pour le Liban, mais nous avons également une coopération qui est forte avec la marine libanaise. C'est-à-dire qu'en fait, nous aidons la marine libanaise à prendre un certain nombre de missions régaliennes qu'elle n'était pas forcément en mesure d'assumer à l'époque. Nous avons également, pour faciliter l'accès de leur port, des travaux qui sont faits en concertation avec eux, et en particulier nous avons envoyé l'été dernier des chasseurs de mines pour aller regarder un petit peu le fond, et nous leur avons donné une cartographie complète, ce qui fait que si par hasard maintenant quelqu'un avait par exemple l'intention de miner l'accès de leur port, on saurait très facilement trouver en fait les différents engins, et en concertation avec eux bien évidemment.
Amiral, la France là-bas agit en son nom propre?
Oui.
Elle n'agit pas sous un drapeau quelconque comme en Afghanistan ou dans d'autres opérations. C'est une singularité encore, ça, non? Vous en parlerez peut-être demain, d'ailleurs.
Oui, mais nous avons quand même, nous faisons partie de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Donc, en fait, la France joue bien sûr sa carte personnelle, mais elle joue également son rôle dans les institutions internationales, et elle ne le fait pas au détriment des autres.
Par rapport à tout ce qui se passe en ce moment en Méditerranée, on a parlé de l'Égypte, on parle de l'Égypte en ce moment, la Tunisie bien sûr, on s'aperçoit que cette région du monde est aussi stratégique pour la France, être présente en Méditerranée, et on est peut-être la puissance la plus présente en Méditerranée. Comment la marine se positionne-t-elle par rapport à cette obligation?
Nous avons un commandement particulier pour la Méditerranée, qui se trouve à Toulon, et qui est chargé bien sûr d'avoir une connaissance parfaite de la zone, donc qui rencontre un certain nombre de ses homologues dans les différents pays qui bordent la Méditerranée. Nous avons un point d'attention plus particulier, bien évidemment, sur l'Égypte en ce moment, parce que l'Égypte, c'est le canal de Suez, et c'est donc la deuxième voie maritime au monde, qui passe au sud de l'Inde, qui prend le golfe d'Aden, le détroit du Bab el-Mandeb, toute la mer Rouge, et qui remonte pour rentrer en Méditerranée par Suez. C'est la deuxième voie d'approvisionnement pour l'Europe. Donc c'est quand même une voie très très importante avec un gros trafic. Et si on fermait Suez, vous imaginez un petit peu, ça veut dire que pour nos approvisionnements, et donc pour nos concitoyens, peut-être qu'ils verront à ce moment l'effet dans leur supermarché, parce que ça veut dire que tout le trafic fait le tour de l'Afrique, et donc prend au moins entre un mois et un mois.
Donc là, aujourd'hui, on regarde les choses de près, hein, pour ce qui se passe en Égypte, vous-même.
Nous, on regarde de près depuis très longtemps, en fait. C'est-à-dire, ça fait partie des choses qui sont stratégiques pour nous. De même que le Bab el-Mandeb, et c'est pour ça qu'en fait, la France a cette tradition si forte avec Djibouti.
Vous restez avec nous, vice-amiral Xavier Magne. Je rappelle que vous êtes sous-chef d'état-major opération de la Marine nationale et que vous avez commandé l'opération Baliste en 2006. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h30 pour commenter l'actualité. On va revenir aussi à d'autres considérations liées à ce colloque diplomatie humanitaire auquel vous participez. C'est demain à l'UNESCO.
C'est aujourd'hui, mercredi 26 janvier, la fête de Saint Timothée et Saint Tite. Ils étaient les compagnons de Paul. Et ceci est important, Paul avait autour de lui des compagnons. Et voici ce qu'il leur écrit dans l'épître à Timothée. « Moi, Paul, qui suis par la volonté de Dieu, apôtre du Christ Jésus, à cause de la promesse de la vie que nous avons par Jésus-Christ, je te souhaite à toi, Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. » On voit la tendresse de Paul pour ceux qui sont avec lui. Et il disait dans une lettre à Tite, « Moi, Paul, serviteur de Dieu, je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant selon la foi qui nous est commune, moi qui suis apôtre de Jésus-Christ chargé de conduire ceux que Dieu a choisis vers la foi et la connaissance de la vérité dans une religion vécue. Prions pour Timothée, Tite, prions pour l'apôtre Paul, prions pour la communion entre les évêques. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pendant le repas de la Pâque, les disciples en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais Jésus leur dit, « Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. » Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande, la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour juger les tribus d'Israël. Quel évangile extraordinaire! Le Christ veut nous dire que il n'arrive pas avec toute la puissance des rois et du royaume et de la force. Il vient en se mettant à nos pieds, à genoux devant nous. Il veut nous laver nos pieds, il veut être proche de toutes nos difficultés, de tous nos problèmes, être là où nous sommes, non pas pour nous condamner, mais pour nous dire « Je viens proche de toi pour te sauver ». Il vous est peut-être arrivé que l'évêque, le pape, un supérieur religieux, vous lave les pieds le jeudi saint. C'est tout à fait bouleversant de voir un évêque à vos pieds, vous laver vos pieds. Et alors tout est changé. On sent qu'il est proche. Oui, le Christ dit à chacun d'entre nous, mets-toi à genoux devant ton frère, lave-leur les pieds. Et enfin, ils comprendront que tu es avec eux dans la misère et dans le salut.
Jusqu'à 8h30, Louis Dauphren.
Et en ce mercredi 26 janvier, notre grand témoin est le vice-amiral Xavier Magne, sous-chef d'état-major opération de la Marine nationale. Il est avec nous jusqu'à 8h30 pour évoquer la diplomatie humanitaire. On va y revenir, c'est un colloque organisé par l'Ordre de Malte à l'UNESCO à partir de demain. Ce sera demain et après-demain. On va revenir sur les notions d'ingérence en particulier. Et puis il y a aussi dans l'actualité la polémique au sujet de l'avenir de l'hôtel de la Marine, le Pentagone à la française qui s'organise pour 2014, la dissuasion et puis d'autres sujets encore qui vont s'inviter jusqu'à 8h30. Pour l'instant, instant. Ce sont les infos à 8h, elles vous sont présentées par Julien Chavannes.
La légalisation de l'euthanasie refusée par les sénateurs, ils ont rejeté cette nuit une proposition de loi qui voulait instaurer une assistance médicalisée pour mourir. Le texte avait été vidé de sa substance un peu plus tôt en commission des affaires sociales. Le gouvernement avait fait part ces derniers jours de son opposition à ce texte. L'Alliance pour les droits de la vie a organisé hier après-midi une opération devant le palais du Luxembourg. 700 manifestants allongés par terre et recouverts d'un drap blanc. La ministre de l'écologie y voit une victoire sur les climatiques sceptiques et les grenello-sceptiques. Réaction de Nathalie Kosciusko-Morizet après le lancement d'un plan pour développer l'éolien en mer. Nicolas Sarkozy a annoncé hier à Saint-Nazaire l'ouverture cette année d'un appel d'offres pour la construction d'éoliennes marines d'une capacité de 3000 MW, un investissement de l'ordre de 10 milliards d'euros. Renault ne sera pas un nouveau Bettencourt. L'avocat du constructeur automobile a accusé ce matin sur France Info la direction centrale du renseignement intérieur de donner aux médias des éléments d'information qui portent préjudice à l'image de Renault. La DCRI a mené des perquisitions ces derniers jours dans les bureaux des trois cadres licenciés. Leurs ordinateurs ont été saisis. À l'étranger, comme un parfum de jasmin en Égypte, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier au Caire, à Alexandrie ou encore à Suez pour demander le départ du président Moubarak. Du jamais vu depuis 30 ans, deux manifestants et un policier ont trouvé la mort hier lors d'affrontements et un groupe d'opposition appelle ce matin à un deuxième jour de manifestation. Des manifestations qui rappellent la révolte qui a poussé l'ancien président tunisien Ben Ali à l'exil. Les Tunisiens, eux, attendent de connaître le résultat du remaniement du gouvernement de transition qui doit être annoncé aujourd'hui. Des centaines de personnes ont à nouveau campé devant le siège du Premier ministre pour réclamer le départ des ministres déjà en poste sous l'ancien régime. Le milliardaire sunnite Najid Mekati, nouveau Premier ministre libanais, appuyé par le puissant mouvement chiite Hezbollah, il va former son équipe gouvernementale. Une nomination dénoncée par son rival Saad Hariri. Des milliers de partisans du Premier ministre sortant ont manifesté parfois violemment hier à travers le pays. Il reste le premier constructeur automobile mondial, mais Toyota n'en a pas fini avec les problèmes techniques sur ses véhicules. 421 000 voitures sont rappelées à l'étranger, 2 millions au Japon, et cela en raison d'un risque de fuite de carburant. Benoît XVI déplore l'exaltation de la recherche de l'argent facile et de la réussite comme but de la vie, même au détriment des valeurs morales. Le pape a une nouvelle fois dénoncé un changement culturel alimenté par la globalisation, les mouvements de pensée et le relativisme dominant. Extrait de son message pour la journée mondiale des missionnaires qui sera célébrée en octobre. On finit avec du tennis et l'Open d'Australie. La Belge Kim Clijsters a rejoint la numéro 2 mondiale Vera Zvonareva en demi-finale. Chez les hommes, le serbe Novak Djokovic a remporté son duel face au Tchèque Tomas Berdych.
Soif de paix ? Venez écouter Jean Vanier, fondateur de l'Arche, mercredi 2 février 2011 à 20h à l'UNESCO. Il proposera un chemin de paix pour notre monde et notre temps. Rendez-vous 125 avenue de Suffren, Paris 7e, muni d'une pièce d'identité. Plus d'infos à l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées, au 01 53 69 44 30 ou sur www.och.fr.
La beauté de la musique liturgique orthodoxe, la sagesse des saints-pères de l'Église, l'art de la prière incessante, l'actualité de la sainte tradition chrétienne. Venez les retrouver dans l'Église orthodoxe aujourd'hui, chaque dimanche à 17h. Une émission réalisée sous la bénédiction de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et proposée par Bogdan Florin Vlaïkou.
Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers ? Hop là, en voilà un, et puis un autre.
Ne laissez plus s'envoler votre argent.
Et puis un autre.
Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
Appelez vite au 01 42 11 03 03, 42 11 03 03.
Venez marcher à la suite de l'apôtre Jacques sur les chemins de Compostelle. Ictus Voyage vous propose de cheminer pendant 7 jours sur les 100 derniers kilomètres du traditionnel Camino Frances. Des paysages vallonnés au petit village de Galice, Cet itinéraire est rendu accessible à tous. 20 km de marche par jour, transport des sacs. Renseignements chez Ictus Voyage au 01 41 12 04 80. 01 41 12 04 80 ou sur ictusvoyage.com. Ictus Voyage. Gardez le sens, voyagez autrement.
Le grand témoin, Louis Dauphren.
Qu'il s'agisse des conflits armés, des conflits locaux, internationaux, des grandes pandémies, des mouvements migratoires, de la lutte contre la corruption, du terrorisme, différentes formes de criminalité, eh bien la marine est en première ligne et elle se met parfois, j'allais dire, en binôme avec des ONG. En tout cas, c'est le sens peut-être du colloque qui est organisé demain à l'UNESCO et qui s'intitule « Diplomatie humanitaire et gestion des crises internationales » pour nous en parler notamment le grand témoin ce matin et le vice-amiral Xavier Mann qui est sous-chef d'état-major de la marine pour les opérations. Ancien commandant de l'opération Baliste au Liban dont vous avez parlé tout à l'heure, amiral, c'était en 2006. Alors peut-être un mot sur la notion de diplomatie humanitaire et puis essayer de donner une réalité concrète à ce qui représente une expression diplomatique avant tout. Amiral.
Alors, si on parle aujourd'hui de diplomatie humanitaire, c'est peut-être parce que on est arrivé à une sorte de croisée des chemins où on constate finalement que la diplomatie traditionnelle, la diplomatie étatique, connaît certaines limites. Et c'est vrai que finalement, lorsque vous regardez le travail des différents États, on parle toujours des intérêts. Et en fait, un État n'a que des intérêts. Quand on regarde nos alliés, on s'aperçoit souvent dans la coopération avec eux qu'ils n'ont que des intérêts et que si par hasard nous ne servons pas leurs intérêts, nous ne leur servons à rien. Il est probablement temps de mettre un petit peu de morale à l'intérieur et c'est là où, je pense, les grandes organisations non gouvernementales, organisations humanitaires, apportent quelque chose un petit peu complémentaire de façon à mettre un petit peu de morale dans toutes ces relations entre États.
C'est vraiment la morale qui guide l'action, là ?
Normalement, pour les ONG, alors bien sûr, les ONG ont leur propre agenda, bien sûr, et je suis pas sûr que toutes les ONG soient de même niveau, mais typiquement, l'Ordre de Malte est une organisation qui a, à mon sens, un vrai sens de la morale, c'est bien là-dessus qu'on se retrouve.
Et un lien avec la marine qui est très fort.
Oui.
Amiral Magne, l'idée, c'est que aussi les humanitaires puissent aussi avoir une action peut-être plus vaste, plus discrète que les États.
Alors,
dans un pays,
ils ont une action qui est beaucoup plus vaste parce que de toute façon, aujourd'hui, peut-être que la prévention est faite en partie par les ONG, toutes les organisations humanitaires. On s'aperçoit que la clé de voûte, en fait, de la relation entre les États, c'est la prévention. Et aujourd'hui, la prévention, on est bloqué par les questions de souveraineté. On ne peut pas intervenir en tant qu'État sur le territoire d'un autre État souverain parce qu'on n'y est pas appelé, bien évidemment. Et en général, il faut attendre la crise, que la crise se déclenche. Or, les organisations humanitaires sont là longtemps avant. Et c'est bien ce qui nous pose quelquefois des difficultés parce que les humanitaires étant implantés depuis longtemps dans un pays avant que la crise n'éclate, c'est très difficile de se désengager au moment où commence à y avoir des combats ou des choses comme ça. Ils auraient naturellement le sentiment d'abandonner les gens qu'ils sont venus secourir. Et ça, je crois que ça ne peut pas passer. En tout cas, nous, très clairement, si on a des gens qu'on est en train d'aider, ce serait considéré comme une vraie trahison de les abandonner. Et donc, on se retrouve avec cette situation un petit peu originale où on intervient militairement quelque part et on a en même temps des humanitaires qui sont déployés sur zone avec un potentiel d'otages qui est épouvantable parce que ce sont des gens qui connaissent la situation, qui connaissent les acteurs et qui donc sont toujours soupçonnés par les forces, les belligérants, d'être des agents de renseignement. Or, ce n'est bien évidemment pas le cas, et c'est ce qui fait en fait toute la difficulté pour nous. C'est-à-dire qu'on arrive un peu en aveugle dans une zone qui est connue par d'autres, on ne peut pas avoir d'informations par les humanitaires, et en même temps, le fait que les humanitaires soient des otages potentiels fait que nous sommes un petit peu comme si nous nous battions avec un ou deux bras attachés dans le dos.
Mais vous diriez, amiral, que les ONG, en particulier peut-être l'Ordre de Malte, hein, je ne sais pas, peuvent constituer des sortes de postes avancés de la diplomatie française, l'humanitaire, peut-être une façon de faire de la diplomatie, ou l'est certainement ?
Oui, sans aucun doute, parce que de toute façon...
Et pour la marine en particulier ?
Ils font passer un message. Ils font passer un message au plus profond des populations, en leur disant, on est là pour venir vous donner un coup de main, on a bien conscience que vous avez des difficultés, et on vous apporte une aide. Maintenant... Quelquefois, ça peut être décalé aussi. Ça dépend de la culture du pays d'accueil. C'est-à-dire qu'en fait, le pays qui reçoit cette aide peut avoir une culture complètement différente, et en particulier dans le monde de l'islam, il y a un rapport de force entre les gens qui peut ne pas être compris. Et vous pouvez très bien donner le sentiment d'une grande faiblesse quand vous êtes en train d'aider quelqu'un et que vous le faites à la façon de l'Occident.
Ce qui n'est pas forcément bien perçu. Vous pensez faire une bonne action, mais en fait, vous donnez une image de vous qui vous rabaisse.
Oui.
Amiral, justement, puisque vous évoquez ce... On a parlé du Liban tout à l'heure. Il y a les persécutions que subissent les chrétiens d'Orient. Des voix se sont élevées pour que la France intervienne, agisse pour protéger ces chrétiens d'Orient. Est-ce que vous avez été sollicité d'une façon ou d'une autre pour qu'une action ait un jour lieu? Et quel type d'action la marine pourrait entreprendre?
Non, nous n'avons
aujourd'hui
pas,
rien.
Pas du tout été sollicité pour ça, et je pense que c'est probablement très délicat, parce qu'à la limite, plus on met le projecteur là-dessus, et plus on renforce le sentiment chez les gens qui persécutent les chrétiens, que c'est une bonne chose à faire, puisque ça leur donne accès aux médias. Or, aujourd'hui, tout repose en fait sur le bruit médiatique que l'on arrive à faire.
Donc, la politique suivie par la France, qu'est-ce que c'est alors, dans ce domaine? On ne fait rien, on ne bouge pas pour l'instant?
Je ne sais pas aujourd'hui quelle est la politique, parce que je pense que c'est une question tellement complexe que elle se réduira, enfin elle se résoudra dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une maturation. Mais je crois qu'en fait, d'abord, la politique de fermeté à l'égard d'un certain nombre de communautés, en particulier les terroristes, je crois que la politique de fermeté de notre président commence à payer.
En Afghanistan en particulier.
Pas seulement en Afghanistan, mais pour nous, marine, on le voit bien sur le théâtre somalien, en tout cas en mer, dans la Corne de l'Afrique. Je crois que les pirates ont un certain respect pour le pavillon tricolore.
L'opération Agapanthe, qui consiste à...
Non, alors Agapanthe, c'est une projection du groupe aéronaval qui a accompli un certain nombre de missions au-dessus de l'Afghanistan, mais je pensais plus à l'opération Atalante.
Atalante, pardon. Voilà, je confondais les deux.
Voilà, celle de l'Union européenne, et en fait, je crois que ce qui a beaucoup marqué les pirates somaliens, ce sont les trois opérations de reprise de vive force, Ponant, Karedas et
Très médiatisé.
Voilà.
Mais néanmoins, ce que l'on peut observer, c'est que quand la France veut agir, elle y arrive très bien. Et pour ce qui est, alors elle est aussi présente en Côte d'Ivoire, vous avez aussi... Vous pourriez d'ailleurs en dire un mot aussi, amiral, mais on s'aperçoit, ce qui surprend peut-être l'opinion publique, c'est qu'on a accueilli des chrétiens d'Orient en nombre assez peu élevé, et que, somme toute, politiquement, on reste quand même très très en retrait, il n'y a pas d'action spectaculaire, peut-être est-ce la meilleure façon d'agir, c'est ce que vous semblez nous dire.
Oui, je crois que plus on fait de bruit là-dessus, et plus on donne envie à un certain nombre d'extrémistes de faire des actions d'éclat pour pouvoir... prouver quelque chose.
Autrement dit, la répression de la criminalité en Somalie, c'est relativement facile parce qu'il n'y a pas d'enjeu géopolitique tellement. Oui. Il y a une répression purement du banditisme. La lutte contre le banditisme, c'est facile. Dès lors qu'on aborde un terrain politique, là,
c'est beaucoup c'est plus difficile. Parce que la grande faiblesse, finalement, de nos démocraties occidentales, c'est le soutien de l'opinion publique. Et en fait, beaucoup de gens à l'extérieur l'ont compris, en morcelant l'opinion publique et en essayant de séparer, de diviser, à ce moment-là, souvent, nos démocraties reculent.
Et vous pensez que nous n'aurions pas, que l'opinion publique ne soutiendrait pas la France si elle entreprenait une action d'éclat dans ce domaine-là, en faveur des chrétiens?
Il n'y a aucun problème pour avoir un soutien instantané. C'est dans la durée qu'en fait le soutien se désagrège. Et c'est bien notre problème, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'on a une action, aujourd'hui, vous voyez bien que dans toutes les opérations qui sont menées, ce sont des opérations qui s'inscrivent dans la durée. Ça n'est plus le rêve que l'on pouvait avoir d'intervenir pendant un mois, et ensuite de se désengager en considérant que l'affaire est terminée. En fait, ce sont des affaires comme elles reposent sur des sociétés qui s'effondrent, ou qui sont en train de se désagréger, où les gens sont en pleine guerre civile. Pour arriver à rétablir quelque chose, il faut du temps, il faut une génération entière. Si vous regardez les casques bleus aujourd'hui déployés sur le monde, vous voyez que les casques bleus à Chypre, ils sont là depuis pas loin de 60 ans. Et ils n'en sont toujours pas partis. Bon, et donc en fait, il y a des tas d'endroits où, si une fois qu'on est installé, c'est pas facile de désengager, parce qu'il faut en fait rebâtir doucement. Alors autrefois, on appelait ça colonisation, aujourd'hui c'est un mot qui est sans doute prohibé, mais quelque part, les opérations menées par l'ONU sont une forme de colonisation, parce que c'est une forme d'assistance à des pays pour essayer de reconstruire l'État, pour essayer de ramener des communautés qui ne se parlaient plus, pour qu'elles, en fait, puissent vivre ensemble.
C'est une colonisation correcte. Si on peut employer ce terme. Diplomatie humanitaire, je pensais, alors, il y a l'ingérence, on se souvient de la notion de droit d'ingérence en particulier, mais il y a peut-être une contradiction aussi. Est-ce que l'humanitaire, ce n'est pas une façon de dire que l'on ne fait plus de politique? On ne fait plus de diplomatie, en fait. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire qu'on n'est plus dans la logique de puissance?
Mais la diplomatie n'est pas forcément tout à fait reliée comme ça à la notion de puissance, puisqu'en fait, la diplomatie, c'est bien l'art de faire passer des messages subtils, et je pense que nos amis du Quai d'Orsay sont des professionnels de très très haut niveau, parce que quand on voit la façon dont ils arrivent à débrouiller un certain nombre de choses extrêmement délicates, ils le font justement avec diplomatie, en évitant de mettre le doigt là où ça fait mal, et en amenant leurs interlocuteurs à prendre conscience d'un certain nombre de choses, à s'approprier des problèmes. Donc finalement, je crois que le terme diplomatie, il est bon, parce que l'humanitaire travaille justement de façon à amener progressivement les pouvoirs publics d'un pays à prendre conscience qu'il y a peut-être un problème quelque part, peut-être de la misère, peut-être
qu'il y a d'autres
de
voies.
La violence, il y a d'autres voies, oui.
Amir Allemagne, vous restez avec nous. Diplomatie humanitaire et gestion des crises internationales, c'est le colloque à partir de demain à l'UNESCO auquel vous participez. On en parle ce matin, notamment, il y a d'autres sujets aussi dans l'actualité, en particulier l'édito de Gérard Leclerc à 8h16 dans une seconde.
L'éditorial.
Gérard Leclerc.
Qui revient ce matin sur un sujet sensible dont il a parlé donc hier matin, c'est bien sûr le débat actuel autour de l'euthanasie.
Pardon, mais je ne vois pas la possibilité d'échapper à la menace euthanasique dont je parlais déjà hier. En une seule journée, le vent a tourné et cette même commission du Sénat qui avait voté à la majorité, une majorité courte mais indubitable, le droit de faire mourir une personne en fin de vie, est revenu sur le sujet, démentant son intention première. Il s'agissait, rappelons-le, d'autoriser une assistance médicalisée permettant par un acte délibéré une mort rapide et sans douleur. Je cite les mots. Oui, fort heureusement, on est revenu de cette formule, une formule qui tue en quelques mots d'une redoutable simplicité. Une simplicité qui fait tout passer en un clin d'œil où tout se trouve permis, justifié et même glorifié. Pensez, avec ces deux mots rapides et sans douleur, il n'y a plus à balancer devant un interdit. C'est une libération que l'on permet, que l'on rend possible, et qui du même coup rend archaïque l'antique interdiction du meurtre. Le message passe si facilement. Au Journal de France 2 d'hier midi, présenté par la si aimable Élise Lucet, le plaidoyer pro-euthanasie était unilatéral. On en voulait pour preuve la Belgique, notre voisine immédiate qui a franchi le pas pour la plus grande satisfaction de tous. La preuve, c'est qu'on veut encore aller plus loin et permettre aux moins de 15 ans l'accès à la mort dite douce. Pas un seul témoignage contradictoire. Il serait visiblement incongru, insupportable. Pourtant, il suffit de s'informer un tout petit peu pour se rendre compte qu'en Belgique et aux Pays-Bas, la législation en faveur d'une administration médicalisée de la mort a déstabilisé la sécurité profonde d'une société protégée encore par l'interdit du meurtre. Le cardinal Philippe Barbarin, dans une tribune publiée dans le Figaro hier, écrivait « Si l'euthanasie est légalisée, le patient aura peur même des interventions thérapeutiques légitimes. Cela me rappelle ce que disait le cardinal Lustiger sur le même sujet il y a déjà bien longtemps. Une société qui prend parti contre l'interdit du meurtre prend une lourde responsabilité, expliquait-il, car elle prend le risque de la mort à l'encontre de la vie et de l'espérance. Pour les jeunes, l'enjeu est crucial. Que la société choisisse la vie et leur hantise de la mort et leur désespoir ne sont plus sans réponse. Un pays, pardonnez l'expression, parie très gros lorsqu'il légitime la mort.
Radio Notre-Dame, le grand témoin.
Ce matin, le vice-amiral Xavier Magne. Alors, amiral, vous qui avez le droit de tuer, qu'en pensez-vous ?
Ben, je pense qu'une société qui légalise l'euthanasie, c'est épouvantable, parce que c'est tuer l'espérance, et puis c'est nier totalement la fécondité de la souffrance. Quand on pense à l'agonie du pape Jean-Paul II, je pense que ça a ramené un certain nombre de gens à l'essentiel. Donc c'est épouvantable de nier ce genre de truc. Je crois que c'est... Enfin, moi, ça me fait quelque chose.
L'idée de vous y voyez une forme de, comment dirais-je, de, osons le mot, de décadence de l'esprit occidental, repu, qui n'accepte plus l'idée de la mort.
Oui, complètement. Mais
je... la mort concerne le soldat. Le propre de la figure du guerrier, c'est d'affronter la mort.
Je crois qu'on l'a vu, et on l'a vu pas très, il y a pas très longtemps, parce qu'en fait, lors sur le voilier Gorschfock, voilier école allemand, et une cadette est tombée en fait des haubans et s'est écrasée sur le pont. Elle est morte. Et en fait, ça a déclenché une espèce de réaction en chaîne chez tous les cadets, à tel point qu'il a fallu les ramener en Allemagne. Bon, ça veut dire qu'en fait, quelque part, ils n'assumaient plus cette espèce de risque. Alors, est-ce que ça a un sens d'en faire des combattants? Est-ce que ça a un sens de mettre des gens qui sont censés pouvoir donner leur vie pour défendre leurs concitoyens? S'ils ne sont pas capables de risquer leur vie à certains moments? Alors, bien sûr, c'est chaque mort est épouvantable, un drame... épouvantable et individuel, c'est terrible pour les familles, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui apporte à la société. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, lorsque nos soldats tombent en Afghanistan...
53 jusqu'à présent.
Oui, et je pense qu'ils...
On a peu parlé du 53e d'ailleurs. Hein.
Oui, je crois que pour eux, c'est leur mort doit avoir un sens. Et aujourd'hui, je crois que légaliser l'euthanasie, ce serait typiquement... gommer le sens de tout leur engagement. Et ça, je crois que c'est horrible, c'est épouvantable. Même pour les familles, c'est horrible.
Est-ce que ça a une conséquence pour l'engagement qu'on peut avoir dans une carrière militaire de se dire qu'une société qui refuse la mort, qui refuse le conflit, par nature, et c'est un petit peu la vocation de l'espace européen de refuser le conflit, et finalement, on n'a pas besoin d'armée.
Oui, on n'a pas besoin d'armée, mais je crois qu'on est balayé très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans le monde un certain nombre de sociétés qui ne sont pas développées de la même façon, qui n'ont pas le même sens de la morale, qui ont des besoins extraordinaires, qui n'hésiteront pas à venir prendre l'espace.
Comment le traduisez-vous ça, amiral? À qui pensez-vous?
Je crois que si vous regardez sur le tour de la planète, aujourd'hui, il y a une telle compétition pour l'accès à tout un tas de ressources. Pensez à des grands pays, des pays immenses avec des populations qui sont de l'ordre du milliard d'habitants, qui sont en train de se développer.
Jeunes, vigoureuses.
Voilà, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin de matières premières, qui ont besoin d'énergie. Tout ça, c'est en compétition sur le marché. En fait, c'est probablement une des petites raisons de la crise économique que nous vivons, c'est qu'en fait, la compétition est une compétition à mort. Et le jour où on considère que finalement les autres peuvent se servir... Je crois qu'ils n'hésiteront pas, parce que de toute façon, pour eux, c'est aussi une question de survie.
Alors, je voulais en finir, si vous le voulez bien, avec deux autres sujets qui peuvent paraître plus mineurs, mais qui ont un sens symbolique important. La commission sur l'hôtel de la marine, qui est en cours de constitution, qui va réétudier à fond le dossier de l'hôtel de la marine, que l'on connaît bien, qui est sur la place de la Concorde, évidemment, bâtiment historique que la marine possède, c'est l'État qui le possède depuis 230 ans, et qui, aujourd'hui, connaît quelques turbulences, parce qu'il était question à un moment de le vendre, puis finalement non. La marine va être déplacée à Ballard en 2014, dans le sud de Paris. Et donc, qu'adviendra-t-il de cet hôtel dont l'existence symbolique représente pour la France quand même un mode de prestige?
Alors, juste pour rectifier, d'abord, l'État possède ce bâtiment depuis bien plus longtemps, parce qu'en fait, avant d'être hôtel de la marine, il était garde-meuble royal.
C'est sous Louis XV, hein.
Voilà. Exactement. Et donc, en fait, il a toujours appartenu à l'État. Et en fait, quand on regarde Place de la Concorde, les deux bâtiments qui sont de part et d'autre de la rue Royale, le côté hôtel de la marine a toujours appartenu à l'État, l'autre côté a toujours été privé. Et en fait, c'est la marine qui est installée dans ces locaux depuis 230 ans. Alors, bien sûr, on n'est pas indifférent au sort de ce bâtiment parce que il y a en particulier toute la partie purement historique avec les salons d'honneur, Salon des Amiraux, et ça c'est quelque chose qui a un impact absolument incroyable sur nos visiteurs lorsque nous recevons des délégations étrangères. J'allais dire que tout le rayonnement de la France passe à travers le prestige d'entrer dans ces lieux. Donc forcément la marine est très... On regarde avec beaucoup d'attention ce que deviendra ce bâtiment. Mais nous avons...
Parce que vous allez le quitter, hein, ça c'est sûr.
Voilà, nous allons migrer vers Ballard pour travailler de façon beaucoup plus intégrée au sein d'un grand ballargone, comme on le dit chez nous, en fait, une espèce de pentagone à la française. Je crois que c'est utile parce qu'aujourd'hui...
Ça a moins de charme, Amiral, quand même.
Ça, bien sûr, ça a moins de charme, mais ce sera fonctionnellement plus important parce que aujourd'hui, les opérations doivent être beaucoup plus intégrées que par le passé. À partir du moment où nous avons moins de moyens, nous avons une répartition des forces qui est beaucoup plus subtile, et donc la synergie entre les trois armées et le commandement par l'état-major des armées doit se faire de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus intelligente. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de faire ce mouvement. Mais on est très content de voir qu'un certain nombre de gens se passionnent parce que quelque part, c'est une partie de l'histoire de la France. Et ce serait probablement dommage de ne pas explorer toutes les voies et de prendre des décisions hâtives.
C'est un petit peu dur quand même pour la marine parce qu'il y a eu la coque du Clémenceau qui s'est baladée sur mer. Il y a l'hôtel maintenant de la marine. Il y a la Jeanne d'Arc dont l'esprit se perpétue à travers un nouveau mode qui permet de garder l'esprit Jeanne d'Arc. Mais quand même, ça fait quand même des symboles qui s'en vont.
Oui, ce sont des symboles qui s'en vont.
Qui sont importants.
Mais parce qu'aujourd'hui, on est sous contrainte et donc il faut bien se réformer, il faut réduire. Et je crois qu'en fait, nous participons à notre façon à la lutte contre le déficit de l'État. Et je crois que c'est très important parce que c'est la survie de la société française. Manifestement, je trouve que le gouvernement a été extrêmement courageux, le président a été très courageux de lancer un certain nombre d'actions dans ce sens-là. Et c'est des actions qui sont difficiles parce que personne n'est d'accord, personne n'a envie de se réformer, personne n'a envie d'être le premier à lever le pied. Et donc, il faut en passer par là, de toute façon. Question de vie ou de mort.
On revient à ces questions essentielles. Merci beaucoup, Amiral, d'avoir été avec nous en direct ce matin. Je rappelle que vous êtes sous-chef d'état-major opération de la Marine nationale, ancien commandant de l'opération Baliste en 2006 au Liban. Il y avait de l'actualité sur le Liban dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci d'avoir été en direct avec nous et bonne journée.